franceinter.fr.
Votre revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Des visages ce matin dans la presse.
Des visages et des vies arrêtées. Elle aimait le rock, le swing et par-dessus tout son métier de prof et ses élèves. C'était la seule prof qu'on appelait par son prénom. Elle n'aimait pas tutoyer ses élèves, mais les vouvoyer, j'aimais bien quand elle faisait ça, racontait Emma, une de ses élèves l'an dernier, Madeleine, prof, 30 ans, tuée au Bataclan. Aujourd'hui en France, Le Parisien retrace une à une ses vies fauchées. Photo de Vincent à la basse. Avec Vincent, nous avions une vie magnifique, idéale, pleure aujourd'hui sa compagne. Pierre et Stéphane, les restaurateurs du Livio à Neuilly, ce n'était pas un resto de clients, mais d'amis, racontent les habitués. Asta, un soutien, un repère, une grande sœur, dit d'elle son cousin, le footballeur Lassane Diarra. Jamila, 41 ans, un enfant, Jamila, tué rue de Charonne. Noémie, californienne de 23 ans. Guillaume, incroyablement gentil, drôle, passionné de musique. Nicolas, 37 ans, mort en protégeant ses amis au Bataclan. Patricia, qui avait fui la dictature chilienne. Et sa fille, Elsa, assassinée ensemble au Bataclan. Seul le petit garçon d'Elsa a survécu. Allongé face contre terre au milieu de la salle du Bataclan, raconte l'écrivain Nicolas Stanzix dans Paris Match. Nous avons continué de faire les morts. Valérie, ma femme, m'a dit « on va y passer ». Je lui ai répondu « tais-toi, on va survivre, ne te lève surtout pas ». Nous nous tenions la main, nous pensions à Joseph, notre enfant. Des récits de rescapés, des bribes de vie et des portraits qu'on aimerait décliner 129 fois. Libération met à sa une cette génération Bataclan, cette jeunesse qui trinque. L'heure n'est pas encore au bilan de l'année écoulée, écrit Didier Perron dans Libé. Et déjà s'impose l'évidence d'une séquence historique entre l'attentat contre Charlie Hebdo et les attaques de vendredi. Deux générations ont été visées. L'assaut des frères Kouachi entendait faire taire la vieille garde de l'esprit gauchiste libertaire et son insolence laïcarde. Vendredi, on a le sentiment qu'une génération naît et meurt la même année. Un gamin peut ainsi s'être fondu dans l'immense cohorte du 11 janvier et s'être fait tuer 10 mois plus tard, écrit-il. Génération sonnée, mais aussi sommée par l'événement, analyse le professeur de philosophie Frédéric Worms quelques pages plus loin. L'enjeu pour cette génération, ce sera de résister à l'événement, pourvu, dit Frédéric Worms, qu'il et elle et nous ne tombe pas dans l'obsession. Une génération face à l'histoire, face à elle-même aussi, à la une du Times de Londres, l'homme le plus recherché du monde, Salah Abdeslam, le 8e homme des attentats de vendredi, né le 15 septembre 1989.
Comment riposter après le choc et la sidération? C'est évidemment la question que tout le monde se pose ce matin.
Et sur laquelle déjà beaucoup s'opposent. Le 13 novembre n'est pas le 11 janvier, moment unique de communion nationale, relève la plupart de vos journaux pour caractériser le climat politique. Nicolas Sarkozy est-il briseur d'unité nationale? S'interroge Guillaume Tabar dans son édito du Figaro. Mais tout a changé depuis les attentats de janvier, insiste-t-il. Même le discours de François Hollande. En janvier, il s'était d'abord posé en rassembleur d'une nation meurtrie. Cette fois, il s'est d'emblée posé en chef de guerre d'un pays attaqué. Alors oui, Hollande doit désormais faire face à la suspicion nationale, insiste Le Point dans son édition spéciale. Fracture politique qu'on retrouve dans la presse ce matin. Il y a ceux qui réclament plus et pointent les échecs de la France. Triple échec, accuse Nicolas Bétou dans l'Opinion, celui de nos services de renseignement, celui du gouvernement, celui de François Hollande, dont la politique au Proche-Orient se révèle être une succession d'impasses. La riposte sécuritaire et militaire doit maintenant être réévaluée, conclut-il. La République comme arme commune martèle à l'inverse l'humanité. Ce n'est pas en rajoutant la guerre à la guerre, ni en écornant l'état de droit, écrit Patrick Le Yarrick, que l'incendie s'éteindra. Faire plus? Mais jusqu'où? Comment? Marc Trévidic, l'ex-juge antiterroriste, éclaire l'alternative qui nous est proposée aujourd'hui. L'état d'urgence déjà décrété est une réponse forte, dit-il, mais en allant au-delà, prévient-il, en construisant des centres de rétention, à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis avec Guantanamo, le gouvernement risque de sortir des principes républicains. Quant à la proposition d'enfermer tous ceux qui font l'objet d'une fiche S, attention à la surréaction, dit-il. Nous n'avons pas une échelle de Richter du radicalisme. Nous risquerions de précipiter un mouvement de bascule où des musulmans modérés, sous prétexte d'avoir le sentiment d'être persécutés, emprunteraient la voie d'une radicalisation certaine. Alors, la France est-elle en guerre? Pour reprendre la terminologie du président, celle aussi de pas mal d'éditions spéciales de vos magazines ce matin. Paris en guerre, raconte en photo Paris Match. Notre guerre, titre Le Point à sa une. La prof d'histoire géo, Laurence Decocq, qui s'apprête à retrouver ses élèves dans quelques instants, réclame, elle, dans Mediapart, le droit de parler à ses élèves de paix. Parce que la paix, dit-elle, tapisse plus joliment les murs d'une école que la guerre.
Alors que faire Hélène en attendant les réponses politiques et stratégiques que François Hollande donnera dans quelques heures devant le Congrès?
Eh bien, vivre ensemble, insiste Guillaume Goubert à la une de la Croix. On n'a pas besoin d'ordre, on a besoin de sens, insiste Bernard Hainaut, président de la Ligue des droits de l'homme dans l'Humanité. Maintenir les grands idéaux de la Révolution française, affirme Elisabeth Roudinesco. La déstabilisation de notre pays voulue par Daesh passe par le fascisme. Vivre ensemble, cette fois, relève Libération, les morts de vendredi rassemblent toutes les âmes. Pour les musulmans de France, la gêne post-Charlie n'est plus de mise. Plus de mise pour l'instant, vous disiez tout à l'heure Malek Bouti. Sur le bitume et les réseaux sociaux, personne ne bronche pour dire c'est mérité. Pourtant, dans la cité de la Paillade, à Montpellier, un éducateur s'inquiète déjà. Dans notre entourage, il faut à nouveau se justifier alors que nous n'avons rien à voir avec toute cette horreur. Comment les plus jeunes vont-ils pouvoir cheminer dans leur vie avec ce poids supplémentaire? Alors, que faire? Joindre ses mains pour n'en faire qu'une? Comme le font dans Le Parisien le rabbin de Ris-Orangis, le recteur de la mosquée d'Evry et l'évêque d'Evry. Ne laissons pas les terroristes nous rendre ennemis de nous-mêmes, insiste Abdennour Bida dans Libération. Ils nous ont pris comme cible pour ce que nous représentons dans le monde. Cette société est prise de paix, de liberté, de justice qui incarne la force de la vie et de l'amour contre lesquels le néant ne peut rien. Alors ne laissons pas retomber dans le vide et la solitude de tous ces élans humanistes et citoyens. Paris est une fête, disait Hemingway. Elle le restera, affirme Jean-Marcel Bougreau de la République des Pyrénées. Oui, c'est ce mode de vie qu'il faut perpétuer, insiste Vincent Duluc dans L'Équipe, en continuant à s'installer en terrasse, à aimer la musique, à jouer au foot, à aller au stade ensemble. Pour faire vivre toujours Madeleine, Thierry, Fabrice, Ouda, Halima, les 129 victimes, parce que ces villes-là sont les nôtres, nous rappelle Mathieu Croissando dans le numéro spécial de l'Obs ce matin.